Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Le cœur content, je suis monté sur la montagne, d'où l'on peut contempler la ville en son ampleur, hôpital, lupanar, purgatoire, enfer, bagne, où toute énormité fleurit comme une fleur. Tu sais bien, ô Satan, patron de ma détresse, que je n'allais pas là pour répandre un vain pleur, mais, comme un vieux paillard d'une vieille maîtresse, je voulais m'enivrer de l'énorme catin dont le charme infernal me rajeunit sans cesse. Que tu dormes encore dans les draps du matin, lourde, obscure, enrhumée, ou que tu te pavanes dans les voiles du soir, passementée d'orfin, je t'aime, ô capitale infâme. Courtisane et bandit, tels souvent vous offrez des plaisirs que ne comprennent pas les vulgaires profanes. Tranquille, comme un sage, et doux comme un maudit, j'ai dit « Je t'aime, ô ma très belle, ô ma charmante, que de fois tes débauches sans soif et tes amours sans âme, ton goût de l'infini qui partout dans le mal lui-même se proclame, tes bombes, tes poignards, tes victoires, tes fêtes, tes faubourgs mélancoliques, tes hôtels garnis, tes jardins pleins de soupirs et d'intrigues, tes temples vomissant la prière en musique, tes désespoirs d'enfants, tes jeux de vieille folle, tes découragements. » Et tes feux d'artifice, éruptions de joie, qui font rire le ciel, muet et ténébreux, ton vice vénérable étalé dans la soie, et ta vertu risible au regard malheureux, douce s'extasiant au luxe qu'il déploie, tes principes sauvés et tes lois conspuées, tes monuments hautains où s'accrochent les brumes, tes dômes de métal qu'enflamme le soleil, tes reines de théâtre aux voix enchanteresses, tes tocsins, tes canons, orchestres assourdissants, tes magiques pavés dressés en forteresse, tes petits orateurs aux enflures baroques prêchant l'amour, et puis tes égouts pleins de sang s'engouffrant dans l'enfer comme des orénoques, tes sages, tes bouffons, neufs aux vieilles défroques. Ange revêtu d'or, de pourpre et d'hyacinthe, ô vous, soyez témoin que j'ai fait mon devoir comme un parfait chimiste et comme une âme sainte, car j'ai de chaque chose extrait la quintessence. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Je viens de lire les deux projets d'épilogue que Charles Baudelaire n'aura finalement pas joints à son recueil des Fleurs du Mal pour leur seconde et dernière édition du Vivant du Poète en 1861. On leur aperçut le second projet apostrophe directement et véhémentement Paris, cette capitale infâme que Baudelaire, nouveau Rastignac, paraît vouloir défier. Sans doute est-ce son vers final « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or » qui donne le mieux la clé, ou l'une des clés du moins, du projet baudelairien. Cette boue du Paris qui précède encore de peu les gigantesques chantiers haussmanniens, Antoine Compagnon, dans un petit livre sensible intitulé « Un été avec Baudelaire », l'a décrit ainsi. Je le cite. « Cette boue, ne l'imaginons pas comme la nôtre, faite de terre et d'eau, minérale, car elle est la boue organique d'un autre temps, dite gadoue de Paris, noire ou verte, margouillie d'immondices, déposée au coin des bornes ou dans les ruisseaux. C'est la boue des boueurs ou des éboueurs, suivant un euphémisme plus tardif, ou encore des boueux, comme on disait dans mon enfance. C'est le petit fumier que les derniers des chiffonniers, les gadouilleurs, vendront aux maraîchers d'Argenteuil pour engraisser leurs asperges. » Et Antoine Compagnon de conclure, « Moins qu'au mythe de Midas dans les Métamorphoses d'Ovide, c'est à la physiologie du chiffonnier de Paris qu'eût fait allusion cet éventuel dernier vers des Fleurs du Mal. Et après qu'ait été condamnée par le régime impérial la première édition de ces fleurs maladives, celle de 1857, Baudelaire, contraint de remanier entièrement son recueil, amputé de 6 poèmes, rajoutera en 1861 une section intitulée « Tableaux parisiens » aux 5 divisions primitives. Le recueil, qui était constitué du chiffre rond de 100 poèmes, se voit alors grossi de 35 nouveaux poèmes, 18 d'entre eux composant autant de tableaux parisiens. C'est donc cette seule section des fleurs qui sera considérée aujourd'hui pour tenter de saisir la quintessence de ce que certains poèmes nomment encore la cité de Fange ou le noir océan de l'immonde cité. Deux vers d'un des poèmes des tableaux parisiens reflètent le désarroi du poète face aux travaux du baron Haussmann. On estime que 18 000 maisons ont été démolies entre 1852 et 1868. Je cite ces deux vers. « Le vieux Paris n'est plus. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. » Lisons alors le poème qui ouvre le cycle de ce que Baudelaire nomme aussi un fourmillant tableau. Paysage. Je veux, pour composer chastement mes églogues, coucher auprès du ciel, comme les astrologues, et, voisins des clochers, écouter en rêvant leurs hymnes solennels emportés par le vent. Les deux mains au menton du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Il est doux, à travers les brumes, de voir naître l'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre, les fleuves de charbon monter au firmament, et la lune verser son pâle enchantement. Je verrai les printemps, les étés, les automnes, et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors je rêverai des horizons bleuâtres, des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres, des baisers, des oiseaux chantant soir et matin et tout ce que l'idylle a de plus enfantin. L'émeute tempêtant vainement à ma vitre ne fera pas lever mon front de mon pupitre, car je serai plongé dans cette volupté d'évoquer le printemps avec ma volonté, de tirer un soleil de mon cœur et de faire de mes pensées brûlantes une tiède atmosphère. Ce tableau parisien, vu depuis sa fenêtre mansardée, paraît pour l'essentiel apaisé, au prix pourtant de la mise à l'écart de l'émeute, référence directe à la révolution de février 1848, à laquelle le poète a participé. Mais s'il y a des paysages, des vues, de boulevards et de faubourgs, dans cette section il y a aussi et surtout des êtres sur lesquels le poète porte un regard tantôt cruel et désabusé, tantôt, et c'est le plus souvent, d'une extrême tendresse, d'un amour intense de l'humanité souffrante. Aussi verra-t-on apparaître toute une galerie de personnages, une mendiante rousse, des aveugles, des petites vieilles, la servante Mariette qui s'occupait des tâches domestiques de la famille du poète, et aussi des êtres anonymes croisés au hasard des promenades dans la fourmillante cité. Lisons alors aussi ce célèbre sonnet intitulé « À une passante ». La rue assourdissante autour de moi hurlait. Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité ? Ailleurs, bien loin d'ici. Trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Lisons aussi les deux poèmes sans titre de la section qui laisse sourdre leurs traces explicitement autobiographiques, puisque le premier rappelle les dîners du poète alors qu'il était un enfant en compagnie de sa mère devenue veuve en 1827, Baudelaire n'a que 6 ans, et le second poème qui rend hommage à leur servante Mariette. Aucun des deux poèmes ne porte de titre, voici le premier. Je n'ai pas oublié, voisine de la ville, notre blanche maison, petite, mais tranquille. Sa pomone de plâtre et sa vieille Vénus, dans un bosquet chétif cachant leurs membres nus, et le soleil le soir ruisselant et superbe, qui, derrière la vitre où se brisait sa gerbe, semblait, grand œil ouvert dans le ciel curieux, contempler nos dîners longs et silencieux, répandant largement ses beaux reflets de cierge sur la nappe frugale et les rideaux de serge. Et voici le deuxième poème. La servante au grand cœur, dont vous étiez jalouse, et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, et quand octobre souffle, émondeur des vieux arbres, son vent mélancolique alentour de leur marbre, certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats, à dormir, comme ils font, chaudement dans leurs draps, tandis que, dévorés de noires songeries, sans compagnons de lit, sans bonne causerie, vieux squelettes gelés, travaillés par le ver, ils sentent s'égoutter les neiges de l'hiver, et le siècle coulé, sans camille ni famille, remplace les lambeaux qui pendent à leurs grilles. Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir, calme, dans le fauteuil, je la voyais s'asseoir, si, par une nuit bleue et froide de décembre, je la trouvais tapie en un coin de ma chambre, grave, et venant du fond de son lit éternel, couver l'enfant grandi de son œil maternel, que pourrais-je répondre à cette âme pieuse, voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse ? Ce regard sensible et tendre du poète vers la paupière creuse de Mariette, la servante défunte, il le porte aussi sur les petites vieilles qui peuplent la capitale infâme. Je lis donc certains des fragments, c'est un des poèmes les plus longs du recueil, certains des fragments du poème intitulé « Les petites vieilles ». Dans les plis sinueux des vieilles capitales, où tout, même l'horreur, tourne aux enchantements, je guette, obéissant à mes humeurs fatales, des êtres singuliers, décrépits et charmants. Ces monstres disloqués furent jadis des femmes, Éponine ou Laïs, monstres brisés, bossus ou tordus, aimons-les, ce sont encore des âmes. Sous des jupons troués et sous de froids tissus, ils rampent, flagellés par les bises iniques, frémissant au fracas roulant des omnibus, et serrant sur leurs flancs, ainsi que des reliques, un petit sac brodé de fleurs ou de rébus. Ils trottent, tout pareils à des marionnettes, se traînent, comme font les animaux blessés, ou dansent, sans vouloir danser, pauvres sonnettes, où se pend un démon sans pitié. Tout cassés qu'ils sont, ils ont des yeux perçants comme une vrille, luisants comme ces trous où l'eau dort dans la nuit. Ils ont les yeux divins de la petite fille qui s'étonne et qui rit à tout ce qui reluit. Avez-vous observé que mains un cercueil de vieille sont presque aussi petits que celui d'un enfant? La mort savante met dans ses bières pareilles un symbole d'un goût bizarre et captivant. Et lorsque j'entrevois un fantôme débile traversant de Paris le fourmillant tableau, il me semble toujours que cet être fragile s'en va tout doucement vers un nouveau berceau. À moins que, méditant sur la géométrie, je ne cherche à l'aspect de ses membres discords combien de fois il faut que l'ouvrier varie la forme de la boîte où l'on met tous ses corps. Ses yeux sont des puits faits d'un million de larmes, des creusets qu'un métal refroidi pailleta. Ses yeux mystérieux ont d'invincibles charmes pour celui que l'austère infortune allaita. Ah, que j'en ai suivi de ces petites vieilles! Une entre autres, à l'heure où le soleil tombant ensanglante le ciel de blessures vermeilles, pensive, s'asseyait à l'écart sur un banc pour entendre un de ces concerts, riches de cuivre, dont les soldats parfois inondent nos jardins, et qui, dans ces soirs d'or, où l'on se sent revivre, verse quelque héroïsme au cœur des citadins. Celle-là, droite encore, fière et sentant la règle, humait avidement ce chant vif et guerrier. Son œil, parfois, s'ouvrait comme l'œil d'un vieil aigle. Son front de marbre avait l'air fait pour le laurier. Tel vous cheminez, stoïque et sans plainte, à travers le chaos des vivantes cités, mère au cœur saignant, courtisane ou sainte, dont autrefois les noms par tous étaient cités. Vous, qui fûtes la grâce ou qui fûtes la gloire, nul ne vous reconnaît. Un ivrogne incivil vous insulte en passant d'un amour dérisoire. Sur vos talons gambade un enfant lâche et vil. Honteuse d'exister, ombre ratatinée, peureuse, le dos bas, vous côtoyez les murs, et nul ne vous salue, étrange destinée, débris d'humanité pour l'éternité mûre. Mais moi, moi qui de loin tendrement vous surveille, l'œil inquiet, fixé sur vos pas incertains, tout comme si j'étais votre père, ô merveille, je goûte à votre insu des plaisirs clandestins. Je vois s'épanouir vos passions novices, sombres ou lumineux, je vis vos jours perdus. Mon cœur multiplié jouit de tous vos vices, mon âme resplendit de toutes vos vertus. Ruine ma famille, ô cerveau congénère, je vous fais chaque soir un solennel adieu. Où serez-vous demain, Ève octogénaire, sur qui pèse la griffe effroyable de Dieu ? La semaine prochaine, nous reviendrons sur ce poème « Les petites vieilles » à travers les analyses qu'en livre le poète Yves Bonnefoy. Mais pour clore cette trop brève évocation des tableaux parisiens, contemplons ce crépuscule du matin, dernier tableau de la section des tableaux parisiens, qui a son pendant avec le crépuscule du soir, vibrante évocation d'un Paris qui s'éveille. Le crépuscule du matin. La Diane chantait dans les cours des casernes et le vent du matin soufflait sur les lanternes. C'était l'heure où l'essaim des rêves malfaisants tord sur leurs oreillers les brins adolescents, où, comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge, la lampe sur le jour fait une tache rouge, où l'âme, sous le poids du corps revêche et lourd, imite les combats de la lampe et du jour. Comme un visage en pleurs que les brises essuient, l'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient, et l'homme est là d'écrire et la femme d'aimer. Les maisons, ça et là, commençaient à fumer. Les femmes de plaisir, la paupière livide, bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide. Les pauvresses, traînant leurs seins maigres et froids, soufflaient sur leurs tisons et soufflaient sur leurs doigts. C'était l'heure où, parmi le froid et la lésine, s'aggravent les douleurs des femmes en gésine. Comme un sanglot coupé par un sang écumeux, le chant du coq au loin déchirait l'air brumeux. Une mer de brouillard baignait les édifices, et les agonisants dans le froid des hospices poussaient leurs derniers râles en hoquets inégaux. Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. L'aurore grelottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la Seine déserte, et le sombre Paris, en se frottant les yeux, empoignait ses outils, vieillard laborieux. Voilà, cette émission touche à sa fin. Vous avez pu entendre trois morceaux musicaux. Tout d'abord, le prélude de Tristan et Iseult de Richard Wagner, tel qu'il a été utilisé d'ailleurs dans le film de Lars von Trier, Mélancolia. Ensuite, vous avez pu entendre aussi l'ouverture, un morceau de l'ouverture de Lohengrin, toujours de Richard Wagner, dirigé par la baguette de l'immense musicien Claudio Abbado. Et enfin, vous avez pu entendre un morceau de la musique que Wojciech Kilar a composé pour le film de Francis Ford Coppola, Dracula. Et ce morceau s'intitulait Love Remembered. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Comme je l'ai indiqué, nous consacrerons plusieurs émissions à Charles Baudelaire. Vous l'aurez compris et vous le savez probablement déjà, un immense poète qui est à tous égards inépuisable. À bientôt. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.